Littérature sans frontières.
Je lis les pages d'un livre. Le monde est dans le livre. Le monde est le livre.
Sophie Écoué, Romain Ferré.
Ce qui pourrait être. La beauté féminine n'est rien d'autre qu'un signe renvoyant à la pureté du monde dans ce qu'il contient déjà comme dans ce qu'il pourrait receler. J'ai passé ma vie à convoiter cette beauté. Hélas, je n'ai pas réussi à m'en rassasier et la chance ne m'a guère souri. Puisque nous commençons notre périple, il nous faut revenir à ce que j'ai connu en premier, l'utérus de ma mère. Au calvaire qu'elle a subi le temps qu'on me détache d'elle pour mieux me ramener à elle. On sait que la vie ne saurait advenir qu'après tourments et persévérance. De fait, le soulagement d'avoir triomphé de l'épreuve n'est offert qu'à ceux qui en ont surmonté les dangers, et la jubilation ressentie est à la mesure du supplice enduré. Contrairement aux apparences, ce phénomène est fort mal connu, et accroître notre savoir en la matière n'est pas affaire aisée. Je suis engagé dans une quête qui exige de quiconque l'entreprend qu'il fasse retour sur lui-même. Toutefois, un tel retour n'est permis qu'à celui qui a accompli sa part du chemin et qui a été éprouvé par une perte. De même, seul est en position de séduire celui qui est animé par le désir. Or, j'ai depuis toujours ressenti une irrésistible attirance pour l'être féminin, dans toute sa diversité, sous toutes ses formes, à travers toutes ses manifestations, les plus visibles comme les plus occultes. Cette attirance n'est pas cantonnée à ma seule époque, puisque des passions se sont nouées entre moi et des femmes dont parfois me séparaient moult siècles. Le temps s'était aboli pour m'ouvrir la voie d'un plaisir des sens combiné à une jouissance de l'intellect. Il existe à cela une explication que je ferai figurer en bonne place si les circonstances me le permettent. J'ai connu beaucoup de femmes, plus ou moins intimement, mais je n'ai pu vivre toute la plénitude d'une liaison qu'avec quelques-unes quand toutes les autres me sont restées désespérément inaccessibles. Il faut dire que je n'ai aspiré qu'aux plus parfaites d'entre elles. Seule la vue des plus accomplies et des plus admirables est capable de m'émouvoir. Quand d'autres reculaient, effarouchés, impressionnés ou préféraient rester sur la réserve, moi j'allais de l'avant, je relevais le défi, empruntant des routes variées pour faire parvenir mes missives à bon port. De la sorte, nous pouvions confronter la lecture de nos messages respectifs, car comment instaurer le dialogue et la connivence autrement qu'en prenant connaissance et en donnant à connaître ? Hélas, la plupart de ces aventures n'ont pas été couronnées de succès, du fait de la profusion des obstacles, de l'adversité des circonstances, de la disparité des mentalités ou de la pusillanimité des sentiments, et la sécheresse a fini par l'emporter sur l'étanchement.
Extrait de Muse et Égérie de notre invité Gamal Hitani, un livre qui rassemble le premier et le troisième volume de la série des carnets, dont Le Seuil avait déjà publié en 2008 le cinquième volume sous le titre Les poussières de l'effacement. Le premier des deux carnets s'apparente plutôt à une exploration géographique de la sensualité féminine, un voyage qui part du Vieux Caire, nous amène dans l'Andalousie, à la Russie, en passant par l'Asie centrale, le Maroc. Le second carnet dérive du souvenir obsédant d'une certaine Hamra, une femme singulière rencontrée dans votre enfance et qui vous a marqué, au point que nombre des femmes rencontrées par la suite dans votre parcours, Gamal Hitani, Hitani dans votre parcours amoureux vous paraîtront comme de simples répliques du séisme qu'elle avait causé en vous. Malgré leur approche différente, les deux carnets sont unis par un même souffle et écrits dans le style unique qui fait toute la force de votre œuvre. Cette juxtaposition de récits courts et denses, ciselés dans une langue riche et méditative. Gamal Hitani, est-ce que vous aviez déjà vu la version française de votre livre ?
J'ai pris possession donc du premier exemplaire à la porte de ce studio.
Alors,
mes livres sont souvent publiés en langue française. Ce sont les éditions du Seuil qui m'ont repéré, qui ont découvert mes travaux et qui l'ont présenté au public français. Je suis redevable à de grands maîtres en France, Monsieur Gamal Bencher, que Dieu ait son âme, Monsieur Jacques Berg et André Michel. C'est un moment d'émotion, je suis très émue.
Vous avez écrit une quinzaine de livres, avec deux livres qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre, Gamal Hitani. Il y a Elsa Annie Barakat, publié en 1974, traduit en français en 1985. C'est à la fois une histoire d'amour et d'espionnage où votre héros, qui s'appelle Zaini Barakat, ministre des Comptes, s'ingénie à diversifier ses modes d'interrogatoire et de torture à l'encontre de pauvres paysans et d'étudiants. Et puis, il y a le livre des éliminations dans lequel vous avez recours à la mystique pour décortiquer un événement assez personnel, tragique d'ailleurs. C'est la mort de votre père qui meurt alors que vous-même vous trouviez à l'étranger. Ce roman explore la richesse du patrimoine littéraire arabe avec ses récits, ses fables, ses rêveries, ses poèmes, ses versets du Coran, une sorte d'emboîtement et de divertissement poétique. Vos livres, en fait, Gamal Hitani, ont une structure assez complexe.
Mes textes sont difficiles. Lorsque j'avais écrit Zaini Barakat avec la langue du XVIe siècle, il était loin de moi de penser qu'on allait traduire Zaini Barakat. Mais mon expérience m'a appris qu'en tant qu'auteur, on est fidèle à son texte. Et viendra qui appréciera cette fidélité plus tard. Toute pensée qui n'est pas reliée à la littérature corrompt, si je puis dire, le récit. Je suis socialiste, mais j'ai appris à travers l'écriture que l'écriture n'était pas un moyen de propagande politique. Pour servir une cause ou une idée, il m'est indispensable d'écrire un bon récit, un bon roman. L'autre aspect, la question sociale n'est pas une finalité en soi pour moi. Je me pose d'autres questions, beaucoup plus importantes.
Alors, il y a des grandes questions sur le sens du temps qui passe, le temps qui passe trop vite, et le temps qui passe trop vite contre lequel on ne peut rien. C'est ça, ce livre.
La force dans l'existence et au monde qu'on ne peut pas saisir, comprendre, dont on ignore son début et sa fin. On appréhende ces différentes facettes à travers la vieillesse, par exemple. Mais sa vérité, on la connaît pas. Je parle du temps, bien entendu. L'écriture est une forme de résistance face à cette force qui emporte tout. En même temps, la vie nous échappe, et très vite. Et j'essaye à travers l'écriture de comprendre ce mystère.
Est-ce qu'on dit l'âge des hommes en Égypte ? Vous avez 66 ans. est-ce que c'est un âge de sagesse, Gamal Hitani ? Est-ce que vous êtes devenu sage à votre âge ?
J'avais toujours le sentiment, même à l'époque où j'étais jeune, de ne pas faire mon âge, d'être plus vieux que mon âge. J'avais commencé à lire et écrire assez tôt, avant 10 ans. Ma vie, mon enfance est difficile. Je suis issu d'un milieu très modeste. Mes parents ont vraiment fourni beaucoup d'efforts pour que je puisse accéder à l'enseignement. Aujourd'hui, je suis très étonnée de voir. Le temps est passé trop vite. Du temps où j'étais jeune, j'avais peur de la mort. Mais avec la guerre, j'étais confrontée à la mort, avec la maladie également. Aujourd'hui, la mort pour moi est un passage. Mais avant d'effectuer ce passage, il faudrait que je laisse une trace pour comprendre cette existence. Et c'est peut-être l'essence ou le sens même de ces cahiers et d'autres œuvres également.
C'est vrai qu'il y a ce sentiment diffus de mort, pas l'impitoyable mort qui fauche, mais comme vous dites, la mort qui vient de l'intérieur. Et celle-là, elle est aussi terrible, cette mort qui vient de l'intérieur, Gamal Hitani.
Bien sûr, il y a les causes extérieures de la mort et j'ai connu deux types, deux sortes de morts. Donc, cette mort qui vient de l'extérieur, je l'ai connue à l'époque de la guerre. À l'époque des révolutions, des personnes ont connu la mort à la place Tahrir et si je m'étais trouvée là, peut-être à leur place, je serais mort aussi. Mais la mort, la véritable mort, c'est la mort qui vient de l'intérieur. J'ai connu également cette mort, j'ai compris. Le problème, en fait, c'est qu'on va passer à effectuer ce passage sans avoir compris notre existence. Nous disposons des questions qu'on pose uniquement. Peut-être que les générations futures trouveront les réponses.
En se posant des questions, Gamal Hitani, vous avez toujours le regard qui scrute les étoiles. Qu'est-ce qu'on trouve dans les étoiles? Qu'est-ce qu'on trouve dans le cosmos?
J'ai essayé d'étudier le cosmos comme étant une partie intégrante de l'intérêt que je porte au temps. Le temps est en fait un mouvement. J'ai essayé d'observer donc cet univers quand j'ai commencé à comprendre que la Terre tourne autour du Soleil et le Soleil tourne autour d'autres planètes et ainsi de suite. Donc j'essaie de comprendre à travers cette observation. Et c'est ce mouvement, on le trouve dans toutes cellules, les cellules humaines, les cellules animales, les cellules végétales. Tout cela peut être appelé l'existence. Et ça donne une différente perception également des gestes quotidiens, de la vie au quotidien, des problématiques sociales. Je n'observe pas l'instant dans un cadre précis. J'essaye d'aller au-delà de ce moment précis. Je suis fou d'astronomie ou du cosmos. Quand la planète Mars s'est approchée il y a quelques années de la Terre, j'ai passé 3 jours sur mon balcon, car on voyait cela de manière très claire à l'œil nu, comme une balle de tennis. Et en fait, lorsqu'on sommes dans une situation d'éclipse et qu'on voit l'ombre de la lune ou du soleil, je me sens comme étant cette ombre, comme si j'étais cette ombre. À l'occasion, un des cahiers, pour parler de l'ombre, est un cahier où on parle du nom. Dans les traditions égyptiennes anciennes, on pense que l'homme reste présent après la mort si on continue à répéter son nom. Et je pars de cette croyance en donnant un nom au départ et à partir de ce nom, je forme le caractère, la personne. Je travaille. Dans 1001 nuits, par exemple, il y a une espèce de montagne imaginaire. Elle s'appelle la montagne Kaf. C'est le lieu le plus éloigné au monde. Je prends comme titre donc la montagne Kaf et à partir de là, j'écris ce que m'inspire le nom, le titre. Le nom devient en fait ici une partie intégrante de l'essence de l'existence, de l'origine de l'existence. Dans l'Égypte ancienne, l'être humain était composé de 5 éléments. Le corps, l'âme, l'esprit et l'âme, le nom et l'ombre.
Centre. Le souvenir de ces cuisses diffusant leur chaleur dans tout le compartiment remonte à ma conscience, mobilisant tout mon désir. Ce sont elles qui m'ont ébloui en premier, avant même que j'aperçoive son visage et que je m'absorbe dans la contemplation de ses traits lumineux. La scène s'est déroulée dans le train rapide qui reliait Madrid à Séville via Cordoue. Depuis quand était-elle là? À quel moment était-elle entrée dans le compartiment pour s'y installer, nuque appuyée contre le dossier du siège couloir? Peut-être était-ce quand j'avais la tête tournée vers le quai ou durant le bref laps de temps où j'avais somnolé. J'avais dû me lever trop tôt ce matin-là et j'étais épuisé par le manque de sommeil. L'insomnie est un mal dont je souffre depuis des années. Sans doute m'a-t-il rattrapé après le passage de la quarantaine ou bien avec le stress grandissant et la multiplication des préoccupations. Mais l'envie de dormir ne disparaît pas. Il y a toujours l'espoir différé que j'arriverai à fermer les yeux, serait-ce brièvement. En voiture ou en avion, je n'y parviens guère, mais le train s'y prête davantage. Je m'étais préparé à m'assoupir, d'autant que le siège était confortable, l'espace suffisamment large, les couleurs de la décoration harmonieuses. Un vert saturé et lumineux jouxtait un jaune marbré d'une légère nuance de rouge qui lui conférait un subtil mélange de solidité et de force. Quant au blanc étincelant laiteux, il encadrait les larges baies vitrées du compartiment. Tandis que le train s'ébranlait avec lenteur et majesté, j'avais cependant décidé de reporter mon petit somme. Je dormirais une fois que le train aurait quitté la ville pour s'élancer à travers les espaces déserts. Mais il avait suffi que je tourne la tête pour que la situation change du tout au tout, altérant la réalité d'une manière trop complexe à décrire en peu de mots. Comment ? Comment avais-je pu ne pas la remarquer ? Elle est vêtue d'un court sarouel qui s'arrête un peu au-dessus du genou, découvrant ses jambes, ses pieds glissés dans des chaussures de sport légères. Mon regard glisse sur ses formes parfaites, un corps ferme, galbé, expressif, infiniment désirable, dont le toucher doit être aussi soyeux que celui de ces dattes qui poussent dans certaines oasis d'Afrique du Nord, luminescente, brillant d'une clarté rougeâtre et laissant deviner par transparence le noyau enfoui dans sa gangue dont la couleur étonnante, moirée, ne relève ni véritablement du doré, ni du jaune, mais de l'entre-deux, puisant dans les deux teintes à la fois. Son corps a le brillant de l'or pur, la discrétion du soleil perçant derrière les nuages, la fraîcheur des oranges, la finesse du rayon lumineux qui transparaît entre les buissons où irise la crête des vagues. Sa peau est couverte d'un fin duvet dont l'inclinaison rappelle celle des épis de blé mûr pour la prochaine récolte.
Gamal Hitani, Musée Géry, les carnets 1 et 2, c'est une vie aux quatre coins du monde, à aimer, à désirer, à rêver, à sublimer les femmes. Mais finalement, avec ce point final que l'on retrouve ici, page 182, ce dont tu es amoureux au fond, c'est de l'impossible. Ce dont tu es amoureux au fond, c'est de l'impossible. Vanité, des vanités, tout est vanité.
Le...
La vie est très riche et très belle. Mais malheureusement, l'être humain est idiot. Et les contraintes, en fait, les obstacles que rencontre l'humanité sont nombreux. Beaucoup de détresse au niveau social, au niveau religieux. Beaucoup d'oppression. On dit que c'est haram, c'est prohibé. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas manger cela. Donc on crée chez l'être humain un obstacle entre lui et la vie. L'oppression politique est encore plus difficile parce que c'est un homme qui opprime un autre. L'oppression sociale. Pour moi, la vie, d'après ce que je comprends, est assez courte. L'être humain a besoin de vivre son adolescence, de pouvoir vivre sa jeunesse, de pouvoir vivre sa vieillesse également. Mais lorsque il m'arrive de voir une personne cherchant la nourriture dans les poubelles, on a besoin de réformer ce monde. La vie n'est pas absurde.
Kamal Hitani, ces carnets 1 et 2, c'est aussi une sorte de promenade au pays de l'architecture. Partout où vous allez, certes, vous regardez le ciel, mais vous regardez aussi les monuments, l'esthétique, la beauté de ces monuments, même le miracle, même dirons-nous, de ces formes. de l'esthétique de ces lieux vous inspire aussi. Vous en parlez dans ces carnets.
Je cherche l'impossible, n'est-ce pas? Je suis en quête de l'impossible, comme c'était mentionné tout à l'heure.
Mais lorsque
je sens que je m'en approche, il s'en échappe. Parce qu'il y a un autre impossible qui se crée.
Combien de femmes avez-vous aimé, Gamal Hitani?
Une seule.
vous
Je ne dis pas cela parce que ma femme est présente, bien sûr, et m'écoute. Dans le quatrième cahier, il y a une idée sophiste. L'être humain, lorsqu'il est enfant, il aime une femme. Il tombe amoureux d'une femme et tout au long de sa vie, il est en quête pour trouver celle-là. En Orient, on reçoit une éducation qui sépare l'homme de la femme. Pour moi, cette séparation a rendu la femme un idéal. Il n'y a pas de femme laide. Il y a un œil qui va voir ou un œil qui ne va pas. La féminité est l'équivalent de la création pour moi. Et c'est la base. C'est l'essence. L'homme est un outil. Ce qui se passe dans les sociétés, dans l'humanité aujourd'hui, les hommes dominent. Dans la religion musulmane, il est dit que dans l'au-delà, les enfants seront appelés par le nom de leur mère. Dans les traditions égyptiennes anciennes, c'est la femme qui a donné naissance au dieu. Isis a donné naissance à Horus. Et Mariam, Marie, a donné naissance à Jésus-Christ.
Est-ce que vous pouvez nous dire le titre de ce livre en arabe? Le titre en français, c'est « Musée Géry », mais ce n'est pas le même titre en arabe. Et nous le commenter.
Le premier cahier s'appelle « Khulsat al-Kara ». Par moment, lorsqu'on est assis, on peut, le temps d'une seconde, piquer du nez, si je puis dire. Pendant cette seconde, il peut vivre une vie entière. Le deuxième cahier, le quatrième tome, Rashahat al-Hamra. Al-Hamra, c'est la première fille dont je suis tombée amoureux, à l'âge de 5 ans. Rashahat, c'est le pluriel de Rashah, c'est-à-dire écho.
Merci beaucoup, Gamal Hitani, d'avoir passé ce moment avec nous. Finalement, lorsque vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que l'écriture, la fiction, vous a apporté?
La vraie existence. Elle m'a apporté la vraie existence. Et puis moi, je ne regarde pas dans le rétroviseur, je regarde droit devant. J'ai beaucoup de projets. J'espère qu'il me sera donné le temps de les écrire.
Merci beaucoup pour ce moment assez riche.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup.
Point final. En faisant retour sur mes expériences passées, je m'aperçois que les femmes que j'ai convoitées excèdent de beaucoup celles que j'ai connues charnellement. Maintenant qu'il est trop tard, j'ai la conviction que ce qui est lointain, inaccessible, m'a stimulé bien davantage que ce qui était proche, à ma portée, qu'une fois réalisé, nos idéaux déclinent à nos yeux et commencent à s'anéantir. Peut-être est-ce là ce que visait une de mes amantes ? Une de celles que j'ai intimement côtoyées dans la réalité et non seulement en rêve, lorsque me voyant silencieux et visiblement sur le point de basculer dans une de mes phases d'accablement, elle s'était écriée « Ce dont tu es amoureux, au fond, c'est de l'impossible. » Sans doute avait-elle raison. Mais aujourd'hui, je suis incapable de l'affirmer, tant il est vrai que notre aptitude à décider et à arrêter un jugement faiblit à mesure que nous nous acheminons vers la fin du parcours. À l'approche de l'ombre sournoise, on entre dans le royaume de l'incertain. Étrangement, c'est quand l'homme a enfin accédé à la maturité qu'il devient temps pour lui de partir. Puis, il arrive que la mort survienne avant même qu'il ait atteint sa plénitude. Alors, il quitte le monde sans que ni son corps, ni son âme n'aient vaincu leur ignorance des êtres qui lui sont le plus proches. Mais ce sujet est si vaste qu'il risquerait de nous emmener trop loin. Aussi, je me contente de procéder par allusion, n'explicitant qu'une partie du tout. Ce que j'ai vécu de plus riche, je le dois à la puissance de l'imagination et le plus gros de cette énergie, qui aujourd'hui m'a hélas déserté, s'était penché dans la rêverie. D'innombrables portes se sont refermées devant moi sans qu'on m'invite à les franchir. J'ai bien tenté de surmonter l'obstacle, tantôt en usant de douces persuasions, tantôt en hurlant ma rage, mais en vain. Dès lors, je n'avais d'autre recours que d'imaginer ce qu'il y avait au-delà et de me démener dans l'espoir de plier les cieux à mes désirs. À l'inverse, d'autres portes qui s'étaient ouvertes ne m'ont inspiré, une fois leur seuil franchi, que désarroi et lamentation. De celle-ci comme de celle-là, telle a été ma moisson.
Lecture des extraits, Christian David Mellet, de la Compagnie du Lion.
Muse et Géry de Gamal Hitani paraît aux éditions du Seuil dans une traduction de Khaled Osman. Merci à Pascal Abdallah pour la traduction. Ce numéro de Littérature sans frontières a été préparé par Chisato Goya, notre stagiaire qui a réalisé le reportage à la librairie Avicenne, émission réalisée par Romain Ferré. La semaine prochaine, on change de lieu avec l'écrivain britannique Jonathan Coe. Portez-vous bien, n'oubliez pas de lire et à bientôt.